VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Abdourahmane Dia pour vous présenter cette édition de 17h30 GMT. Nous sommes le jeudi 2 février 2017 au sommaire. Au lendemain du décès de l'opposant congolais Étienne Tshisekedi, Kinshasa a vécu au ralenti. En Centrafrique, des hommes armés ont mené une attaque dans le nord-ouest faisant plusieurs morts. Plus de 1400 migrants secourus au large des côtes libyennes ces dernières 24 heures. Premier jour du nouveau patron de la diplomatie américaine, Rex Tillerson. Il a rencontré le personnel du département d'État ce matin. Et ne ratez pas les informations sur la CAN 2017 et l'actualité économique. Mais tout d'abord, le journal. La disparition de l'icône de l'opposition congolaise Étienne Tshisekedi laisse la RDC dans l'incertitude. Une bonne partie de la classe politique a trouvé un compromis après l'expiration du mandat du président Joseph Kabila en décembre dernier. Mais les négociations sous l'égide de l'Église ne garantissent pas une sortie de crise. Éric Manirakiza.
Boutique fermée, conducteur de taxi-moto communément appelé Wewe, fervent partisan de Tshisekedi, était absent dans la circulation. Des milliers de militants, pour la plupart des jeunes, étaient rassemblés aux abords du siège de l'UDPS et des résidences du vieux Tchitchi, comme il l'appelle, et de son fils Félix. En milieu de la matinée, la vie a repris son cours normal. Hier soir, des policiers ont délogé une cinquantaine de militants qui pleuraient le défunt à l'intérieur du siège du parti. Le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social est décédé en pleine négociation politique cruciale pour l'avenir de la RDC. Les cadres de l'UDPS se sont réunis aujourd'hui pour organiser les funérailles et décider de la suite à donner à leur action politique.
Hier, la police donc a usé de gaz lacrymogène au siège de l'UDPS et un nouvel incident a été signalé aujourd'hui à la résidence de son fils Félix Tshisekedi. Joseph Mabanga, membre du rassemblement de l'opposition.
Nous sommes passés d'abord par la résidence du président Tshisekedi. Nous avons présenté les condoléances à la famille qui est là. Il y a beaucoup de combattants qui sont là depuis hier. Et nous sommes allés dans l'avenue voisine. C'est là où habite Félix Tshisekedi. Nous sommes allés, les combattants sont également là. Nous sommes beaucoup de gens. Le militaire, pendant que nous sommes dans la résidence, d'abord on a coupé les courants, il n'y a pas de courant dans les quartiers, ce qui est inacceptable. Pendant que nous étions là, un policier en tenue est venu et a jeté des gaz lacrymogènes. Il y a des mamans qui sont restées là évanouies. Nous nous sommes sortis par le petit avenue derrière les maisons.
C'était Joseph Mabanga, membre du rassemblement de l'opposition congolaise. Nous reviendrons sur la disparition d'Étienne Tshisekedi dans la partie magazine de cette édition. En République centrafricaine, la ville de Bokaronga, dans le nord-ouest du pays, a été attaquée ce matin par des membres d'un groupe armé. Plusieurs personnes ont été tuées et des bases humanitaires pillées. Les précisions de Freeman Sipila.
Jusqu'au début de la soirée, la tension était encore vive dans cette ville sécurisée depuis plusieurs mois par la MINUSCA, la force de l'ONU. Il est difficile de dire avec exactitude ce qui s'y passe en ce moment, car toutes les communications téléphoniques sont coupées. Bernard Dila, député de Bokaranga 1, dénonce l'inaction des casques bleus.
Depuis ces derniers temps, nous constatons vraiment un laxisme total de la MINUSCA. La MINUSCA était à Kui, ces mêmes groupes armés sont venus rentrer dans Kui, ils ont attaqué Kui et ils ont installé même leur base à proximité même de la MINUSCA. Aujourd'hui, la MINUSCA toujours est à Bokaranga et ces mêmes gens de Sidiki viennent attaquer Bokaranga sous la barbe impuissante de cette MINUSCA-là.
La MINUSCA n'a pas encore officiellement réagi à cette montée de violence. Selon une source proche du bureau de la coordination des affaires humanitaires à Bangui, plusieurs bases des humanitaires ont été pillées et certains personnels seraient en danger ou en cavale dans la nature. D'autres sources confirment l'attaque de l'église catholique de Bokaranga, abritant plus de 15 000 déplacés internes. Plusieurs personnes auraient trouvé la mort et de nombreux autres en fuite. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Nigeria, la police refuse d'autoriser la tenue d'une manifestation prévue le 6 février prochain à Lagos à l'appel d'un célèbre musicien pour protester contre la gestion de la crise économique par le gouvernement. Le chanteur Two-Face, de son vrai nom, a appelé dans une vidéo postée mardi sur son compte Facebook les Nigérians à descendre dans la rue le 6 février prochain de façon pacifique et sensée, mais la police dit craindre l'infiltration de perturbateurs. Les autorités soudanaises ont libéré un journaliste britannique détenu pour entrée illégale dans le pays le mois dernier. Phil Cox a été remis à l'ambassade de Grande-Bretagne hier, mais il se trouvait toujours à Khartoum ce jeudi. Selon le porte-parole de la mission diplomatique, des préparatifs sont en cours pour qu'il rejoigne sa famille en Grande-Bretagne. En Algérie, les élections législatives auront lieu le 4 mai prochain. Le président Abdelaziz Bouteflika a signé un décret fixant la date de ce scrutin destiné à renouveler l'Assemblée populaire nationale élue en 2012. Plus de 1300 migrants ont été secourus hier au large de la Libye et au moins une centaine aujourd'hui. L'annonce a été faite par les gardes-côtes italiens des ONG au lendemain d'un sommet européen qui a débattu de la question. Les explications de Salwa Diafari.
Les migrants secourus se trouvaient sur 13 embarcations de fortune. Ils se dirigeaient vers les ports de Reggio de Calabre et de Trapani en Sicile. Très tôt ce matin, un navire affrété par SOS Méditerranée et Médecins sans frontières a secouru 100 personnes de plus, dont 41 mineurs non accompagnés. Des nouvelles arrivées qui viennent conforter les demandes du Premier ministre libyen Fayez Sarraj, qui se réunit à Malte avec des représentants de l'Union européenne.
Nous espérons que les mécanismes de l'Union européenne pour aider la Libye seront plus pratiques. Nous n'allons pas mentionner le montant d'argent dédié à la Libye parce qu'il s'agit de très petites sommes. Nous avons besoin d'une contribution plus importante pour parvenir à stabiliser la situation.
L'UE n'a pas publié de chiffres pour son aide à la Libye, mais le montant devrait être faible par rapport aux 6 milliards d'euros promis l'an dernier à la Turquie. Pour quelle endigue le flux de migrants partant de ses côtes vers la Grèce.
Toujours en Libye, quelques 70 soldats de l'armée nationale libyenne, loyaux au maréchal Khalifa Haftar, ont été transférés cette semaine en Russie pour des soins. Ce transfert illustre le rapprochement entre Moscou et le maréchal Khalifa Haftar, qui dirige l'ANL et qui refuse de prêter allégeance au gouvernement d'union nationale basé à Tripoli, seul reconnu par la communauté internationale.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump affirme que les États-Unis doivent être beaucoup plus sévères en matière de relations avec d'autres pays. C'était lors d'un petit déjeuner de prière ce matin dans la capitale américaine. Les explications, Jacques Aristide.
Il s'agit d'un rituel de Washington qui rassemble des élus républicains et démocrates le premier jeudi du mois de février. Le président Trump a profité de l'occasion pour critiquer l'acteur et ancien gouverneur républicain de Californie, Arnold Schwarzenegger, qui lui a succédé à la tête de l'émission de télé-réalité The Celebrity Apprentice. Ils ont embauché une star du cinéma pour me remplacer. Nous avons vu ce qui s'est passé, une chute vertigineuse des audiences, un désastre total, a déclaré Donald Trump, avant de dire qu'il veut prier pour Arnold Schwarzenegger et pour son audience, ce qui a provoqué des rires dans la salle. L'acteur n'a pas tardé à réagir sur Twitter. Schwarzenegger affirme, je cite, « Donald, j'ai une idée, pourquoi ne pas échanger nos postes? Les gens pourront de nouveau dormir tranquillement. » Fin de citation. Sur une note plus sérieuse, le président Trump a fait allusion à la politique étrangère en indiquant que les gens ne devraient pas s'inquiéter au sujet de ses récents appels téléphoniques à certains dirigeants mondiaux et d'ajouter que les autres pays ne vont plus pouvoir tirer profit des États-Unis comme cela a été le cas jusqu'ici d'après lui. Le locataire de la Maison-Blanche a également promis de faciliter la participation des groupes religieux à la politique.
Merci Jacques. Par ailleurs, le président Donald Trump a mis l'Iran en garde après son récent tir de missile, une action encouragée selon lui par ce qu'il appelle le désastreux accord international sur le nucléaire iranien. Donald Trump n'a pas détaillé ce que recouvrait cet avertissement. Téhéran a réagi affirmant que les mises en garde de l'administration américaine sont sans fondement et provocatrices. En Grande-Bretagne, le gouvernement a publié aujourd'hui sa stratégie sur le le Brexit dans un livre blanc qui reprend les grands actes déjà dévoilés, dont la sortie du marché unique. Le document confirme la volonté britannique de quitter non seulement l'Union européenne, mais aussi le marché unique et la juridiction de la Cour de justice de l'Union européenne. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place au journal de la CAN avec Nicolas Pinot.
Bonsoir à tous. À suivre ce soir, la deuxième demi-finale à Franceville. Le coup d'envoi à 19h temps universel entre le Ghana et le Cameroun. Modèle de régularité depuis près d'une décennie, mais jamais sacré. Le Ghana, déjà finaliste en 2015, va tenter de faire aussi bien lors de la CAN 2017 face à cette surprenante équipe du Cameroun qui a rajeuni. On rappelle que le trophée fuit les Black Stars du Ghana depuis 1982. On retrouve tout de suite sur place Timothée Dodangmaï, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon. Timothée, on peut dire que le Ghana est favori sur ce match.
Oui, les Black Stars sont favoris dans la mesure où ils ont fini finalistes lors de la dernière édition face à la Côte d'Ivoire. Et ils en ont perdu face à la Côte d'Ivoire. Avec l'élimination des Ivoiriens, les Ghanais pensent qu'aujourd'hui, c'est leur tour de soulever le trophée continental. En face, le Cameroun, qui a 4 titres comme le Ghana, mais qui, depuis 2002, n'a plus gagné. Lors de la dernière CAN, ils ont été éliminés dès la phase de groupe. L'équipe est en reconstruction avec des jeunes joueurs qui ont été appelés pour compenser la défection de éléments clés. Sous la houlette du capitaine Benjamin Moukandjo, ils entendent faire un bon parcours sur Gabon en attendant la CAN 2019 qu'ils accueillent. Alors, les éléments... L'atout des Ghanéens, c'est bien évidemment cette équipe qui avait déjà joué la dernière finale contre la Côte d'Ivoire, les frères Ayou, Asamoah Gyan, Peter Assou. Donc une équipe solide qui va faire face au jeu défensif des Camerounais. Donc un match très intéressant à voir, Nico. Timothée Dodangmaï, Franceville. VOA.
Retour sur l'immense déception à présent hier soir à Libreville pour le Burkina Faso. Les étalons sont passés tout proche de la qualification au Stade de l'Amitié. Après une première période équilibrée, ce sont les Pharaons qui ouvrent le score à la 66e minute de jeu grâce à l'incontournable Salah, le joueur de l'AS Roma. Les étalons partent alors à l'assaut du but égyptien et sont récompensés par Aristide Bansé qui égalise un but partout. Les deux équipes en resteront là jusqu'à la terrible épreuve des tirs au but et les Pharaons se montrent les plus adroits. Essam El Aradi stoppe notamment le pénalty du jeune gardien burkinabé de 20 ans, Hervé Kouakou Kofi, pour qualifier les étalons du Faso. Score final, un but partout, 4 tirs au but à 3. La déception, évidemment, pour Paolo Duarte, le sélectionneur du Burkina Faso, qui critique aussi l'arbitrage.
Première mi-temps, 1 contre 1, mon attaquant va pour la surface. Le défenseur coupe la balle avec la main. Le monsieur arbitre, qui est un grand arbitre, souffle la faute après 30 secondes. Après l'insistance du auxiliar, il donne pas un coup de carton. C'est pas normal. Penalty, c'est l'Égypte qui a gagné et bien, avec un gardien qui a une énorme expérience. Sur le match, il y a quelqu'un qui peut gagner, il doit gagner, c'est le Burkina Faso.
Paolo Duarte, le sélectionneur du Burkina Faso, retour également sur cette élimination avec le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué.
Bonsoir. Au-delà du résultat de la demi-finale de Libreville, qui a vu la victoire des Pharaons contre les étalons du Burkina Faso, ce sont surtout les leçons à en tirer qui paraissent pertinentes. Jusqu'à la phase finale de 1996, dans la Nouvelle-Afrique du Sud, la haute volta devenue Burkina Faso avait habitué les observateurs à un statut de figurant inoffensif au grand rendez-vous africain. Le tournant historique s'est opéré lors de l'édition 1998, qui avait vu le pays organisateur atteindre les demi-finales et disputer un match d'anthologie contre le Zaïre. Dès lors, la création d'écoles de football performantes a permis à ce pays, qui servait jusque-là de vivier au football ivoirien, de développer une dynamique favorable à la réussite des jeunes dans les catégories correspondantes, avec comme débouché naturel l'éclosion d'une génération exceptionnelle finaliste de la CAN 2013. C'est cette même génération qui s'est présentée en favorite face à une Égypte en reconstruction lors de cette CAN gabonaise. Mais le dicton le répète. Les grandes équipes ne meurent jamais. Malgré une domination territoriale et offensive des étalons, les Pharaons, qui ont eu le culot de mener au score ont conduit la belle équipe burkinabé jusqu'à l'épreuve fatidique des tirs au but, perdu devant un monument de la formation intemporelle du Nil, le gardien El Hadary. Nous retenons que la logique a sa réalité, mais la symbolique historique a la sienne. L'Égypte, en finale, attend d'affronter un de ses concurrents au palmarès, le Ghana ou le Cameroun, pour le bouquet final. À bientôt.
Voilà, c'est la fin de ce journal de la CAN. Prochain point sur le tournoi demain matin sur VOA Afrique. Et rendez-vous sur notre page Facebook et notre site voaafrique.com.
Et tout de suite, c'est l'actualité économique en Afrique. On en parle dans la Minute Éco avec Morgane Guériec.
Proparco entend consacrer 2,7 milliards d'euros à l'Afrique. D'après Jeune Afrique, la filiale de l'Agence française de développement spécialisée dans le secteur privé a ainsi annoncé sa stratégie jusqu'en 2020. C'est un gros trou dans le budget du Ghana. Le nouveau gouvernement fait état de 1,6 milliard de dollars de dépenses non comptabilisées par le gouvernement précédent. Nouvelle taxe sur les produits alimentaires au Zimbabwe, s'élevant à 15%, elle a été mise en place dans l'objectif de renflouer ses caisses, vidées par la sévère crise financière qui frappe le pays, rapporte l'AFP. Sont concernées les pommes de terre, le riz, la margarine et la viande. Sachez enfin que le prix des produits alimentaires a nettement augmenté en janvier à l'échelle mondiale, à en croire l'indice FAO. Une hausse stimulée par le sucre et les céréales, indique l'AFP.
Vous écoutez toujours Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, c'est toujours l'émotion au lendemain du décès de l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Âgé de 84 ans, M. Tshisekedi a marqué les esprits de Congolais de différentes générations depuis les années 60. Réaction à Kinshasa sur ce reportage de Walter Kouy de Top Congo FM, notre station partenaire.
Celui qu'on avait surnommé le sphinx de l'Imété laisse des traces indélébiles dans les mémoires des populations congolaises. Au siège de l'UDPS, parti d'Étienne Tshisekedi à l'Imété, plusieurs personnes sont en pleurs. Des échauffourées ont opposé les militants de l'UDPS aux policiers dans la commune de Limité.
Nous voulons faire savoir tout le monde que Tshisekedi n'est pas n'importe qui. Et on ne peut pas amener les corps du président en ce moment. Que la CENCO puisse mettre fin à ces dialogues. En une période de 3 mois, on peut ramener les corps du président. Nous allons les plaire en honneur avec dignité comme il les mérite.
Je suis inconsolable. Je n'arrive pas. C'est un père. C'est une personne qui a l'amour du peuple. D'abord, il prenait la place des peuples congolais.
Sa lutte, sa bravoure pour l'instauration d'un véritable état de droit en RDC, cœur de l'Afrique, restera inoubliable. C'est un sentiment de perte énorme, dit un parlementaire.
Même pour cette alternance que nous sommes tous en train de rechercher, cette alternance apaisée, démocratique et transparente. Pour nous, c'est un sentiment de perte, c'est un sentiment de tristesse. À l'instar de Moïse, Étienne Tshisekedi a prophétisé justement sur la conquête de cette terre promise qui est la démocratie. Et nous estimons, nous, que nous sommes la génération de Josué, justement, qui doit entrer dans l'effectivité de cette démocratie. Nous croyons, nous restons sereins.
Étienne Tshisekedi reste le père de la démocratie, dit un fonctionnaire qui demande au chef de l'État d'élever au rang d'héros national le président de l'UDPS.
C'est grâce à lui que le dictateur comme Mobutu a pu se remettre à l'ordre pour que nous puissions aujourd'hui avoir le multipartisme. Moi, je demanderais en tout cas au président de la République d'organiser un deuil national et de faire de lui un héros pour notre nation. Je demanderai aussi pour honorer sa mémoire aux politiciens congolais. Ils doivent se mettre d'accord sur tout le point faisant objet des arrangements particuliers afin d'aboutir à un nouveau gouvernement avec à la tête un premier ministre issu du rassemblement.
Moi, j'aurais souhaité qu'un mausolée soit érigé pour lui ici au niveau des Limété.
C'est l'icône qui ne peut être oubliée, dit un autre.
Avec ses compères, vous vous rappelez de l'histoire des 13 parlementaires en 1982. Ces gens qui se sont
sont soulevés contre la dictature de Marechal Mobutu. C'est à partir de cette époque-là que le multipartisme a vu le jour en République démocratique du Congo. C'est vraiment une icône, un modèle pour tout politicien congolais. Vraiment, coûte la poids lui, mais il part très tôt. La nation congolaise avait encore besoin de lui.
Kinshasa, Walter Nkouille de Top Congo pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Seule une action commune des forces en présence au Mali peut combattre le terrorisme. C'est ce que pense le colonel Abbas Ag Mohamed Ahmed. Il est le chef d'état-major du Congrès pour la justice de l'Azawad. Il était à Bamako dans le cadre du comité de suivi de l'accord pour la paix. Reportage dans la capitale malienne, Kassim Traoré.
Loin de ses bases militaires dans la région de Tombouctou et Taoudeni, le chef d'état-major du Congrès pour la justice dans l'Azawad, JIA, était à Bamako. Cela afin de négocier l'intégration de son mouvement dans les structures techniques de mise en application de l'accord d'Alger. Le colonel Abbas Ag Mohamed Ahmad avoue que l'application de l'accord pour la paix ne bouge pas.
Ça piétine, ça n'avance pas comme on le souhaite, parce que ça traîne, et plus ça traîne, il y a certains ennemis qui en profitent. Donc tellement notre problème, c'est en un mot, la représentativité au niveau de certaines commissions de l'accord, le CSA, la commission de défense, la sous-commission de défense et consorts, la CTS. Nous sommes une force, donc on a un problème aujourd'hui de représentativité au niveau de ces commissions parce qu'on se sent un peu délaissé et personne ne parle à notre nom.
Précédemment commandant des bases S de la CMA dans la région de Tombouctou, le colonel Abbas Ag Mohamed Ahmad a quitté la CMA avec ses hommes. Ils sont tous dans le CJA et possèdent deux bases militaires. Ils continuent de sécuriser certaines localités des régions de Tombouctou et Taoudeni, non sans peine.
Mon poste de Farache a été attaqué deux fois. En juin, il était attaqué. On a eu un mort. Les extrémistes ont eu cinq. La deuxième fois, c'est bon décembre passé, où on a repoussé les ennemis. Ils ont eu deux morts. Nous, on n'a pas eu de morts, on n'a pas eu de blessés. L'explication de cette insécurité, c'est le terrain est vide. C'est un vaste terrain et les moyens manquent. Parce que combien de fois j'ai ramené des animaux volés? Combien de fois on a saisi des motos, une centaine de motos volées, qu'on a remis à Tonka Yagunda?
Pour cet homme de terrain, la lutte contre le terrorisme doit se faire avec rigueur, en ne laissant aucun espace aux ennemis de la paix. Colonel Abbas Ag Mohamed.
C'est pas ça la solution. La solution, c'est d'occuper les terrains et de harceler les islamistes dans leur fief, en plein désert. Il faut vraiment de la rigueur.
En tout cas, le Congrès pour la justice dans l'Azawad, CJA, travaille avec les autorités maliennes pour la sécurisation des personnes et de leurs biens dans les localités de Tombouctou où se trouve leur base militaire. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Plusieurs pays africains essayent de mettre en place un dispositif juridique pour faire face aux abus sur Internet. En effet, avec le développement des réseaux sociaux et l'accès à Internet à haut débit, plusieurs pays africains sont en retard dans la mise en place de l'arsenal juridique pour contrer les dangers qui accompagnent ce progrès. C'est le cas au Burkina Faso. Reportage à Ouagadougou, Zoumana Wanogo.
Avec le développement rapide de l'Internet et des réseaux sociaux, le Burkina Faso, à l'instar des autres pays, n'échappe pas à l'usage abusif. Le capitaine Guy Hervé Yé, directeur de communication de la Gendarmerie nationale, fait l'état des lieux.
Pour le moment, nous ne disposons pas d'une plateforme qui permettrait de centraliser toutes les plaintes, mais à l'heure actuelle, ce qui est plus utilisé, c'est nos brigades qui reçoivent un certain nombre de plaintes par rapport à des actes de cybercriminalité ou d'escroquerie. Par exemple, nous avons souvent des plaintes directes de personnes qui ont été escroquées à travers les réseaux sociaux, à travers Facebook ou même par les mails, les adresses mail tout simplement. Il y a aussi la page Facebook de la Gendarmerie nationale qui reçoit régulièrement un certain nombre de plaintes de populations qui constatent qu'elles ont été abusées à travers les réseaux sociaux. Ça concerne les escroqueries, mais aussi de plus en plus, ça concerne aussi des actes de proxénétisme, de pédophilie. Nous, actuellement, la priorité, c'est vraiment, par exemple, ceux qui disent des choses qui peuvent inciter à des troubles à l'ordre public, mais aussi à, par exemple, des incitations, une apologie du terrorisme, par exemple.
Que peut faire le régulateur face à cette donne. Écoutons lui Modeste Ouedraogo. Il est le directeur général des affaires juridiques au CSC, Conseil supérieur de la communication.
Il faut préciser d'abord que Facebook n'est pas, en tout cas, de la communication publique, a priori. Mais quand on se réfère au contenu, c'est bien de la communication publique. Mais quand on se réfère à la loi, Facebook devrait échapper, en tout cas, de par la définition donnée par la loi, à tout contrôle du régulateur. Mais nous nous basons sur le fait que Facebook est un relais des médias traditionnels, ça c'est un. Deuxièmement, il y a même des médias qui se réfèrent au contenu Facebook pour créer de l'information. Alors, ce qui fait que nous ne pouvons pas réguler en dehors de Facebook, c'est-à-dire sans référence à ce réseau social. Il faut qu'on sache que Internet n'est pas une zone de non-droit.
Tassere Sawado dit Tastas, il a gagné un procès en diffamation. Il explique.
Moi, j'ai demandé juste un procès pédagogique, ni emprisonnement, rien. Un franc symbolique, juste pour qu'on discipline les réseaux, parce que ça peut être un facteur de désunion de tous ceux qui suivent comme mésentente. Ça peut jouer sur la cohésion, et ainsi de suite.
Zoumana Onogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le nouveau patron du département d'État, Rex Tillerson, a promis de travailler pour le succès de la diplomatie américaine, tout en disant compter sur la collaboration et l'expertise d'un personnel diplomatique pas entièrement acquis à la cause du nouveau président. Plus de 900 employés ont signé une pétition contre les mesures de Donald Trump sur l'immigration. Chérubin Dorcy l'a joint Leonard Wanchekon, professeur de sciences politiques à l'Université de Princeton.
Bon, moi, je prends ça avec beaucoup d'appréhension. Hein. D'abord parce que il faut l'expérience politique, il faut l'expérience diplomatique et il faut avoir surtout un sens très clair des enjeux stratégiques actuels avant de jouer un tel rôle.
Excusez-moi de vous interrompre, professeur, mais ces affaires, justement, l'ont mis sur le parcours de beaucoup d'hommes d'État. Il a de l'expérience en ce sens.
Mais en fait, ce qu'il faut voir, ce n'est pas le fait de rencontrer les acteurs dans ces secteurs-là. Le problème, c'est d'avoir l'expérience et d'avoir les connaissances qu'il faut des enjeux. Moi, j'aurais préféré clairement, disons, un politique et un diplomate à ce poste-là.
Et que pensez-vous des rapports de M. Tillerson avec, par exemple, Vladimir Poutine?
Mais c'est très inquiétant, hein, de mon point de vue, parce que la Russie, c'est quand même... pas le modèle de la démocratie, la Russie, c'est pas le modèle, même dans le monde des affaires, c'est pas le modèle de transparence et d'éthique. J'aurais même préféré la Chine, de ce point de vue, parce que bon, ils essaient de faire les choses d'une autre façon. Et le système chinois, c'est un système qui est loin d'être aussi répressif et aussi autoritaire que le système russe, quoi. Voilà. Donc, avec tout ce qui se passe sur le plan international actuellement, et notamment dans les pays de l'Est, l'Ukraine en particulier, c'est quand même difficile à comprendre, hein, que quelqu'un qui a des rapports aussi étroits avec l'un des adversaires les plus acharnés des États-Unis, que le ministre des Affaires étrangères des rapports privilégiés avec celui-là.
Quelle direction voyez-vous prendre la diplomatie américaine sous Rex Tillerson?
C'est difficile à dire. Hein. Bon, ce qui est clair, c'est que les rapports avec la Russie vont s'améliorer, peut-être pour le meilleur ou le pire. De l'autre point de vue, je pense que l'Afrique, en particulier, sera pas une priorité parce que l'enjeu économique là-bas n'est pas aussi élevé que l'Asie et l'Europe de l'Est en particulier. Et je pense que ça risque aussi d'être une diplomatie, une politique étrangère assez musclée.
43 sénateurs sur 100 n'ont pas voté pour Rex Tillerson. Il va diriger un département actuellement en pleine grogne. Il y a plus de 900 employés qui ont signé une pétition dénonçant le décret sur l'immigration du président Trump. Il va devoir être bon manœuvrier.
C'est ça, mais je ne sais pas s'il va le faire. Mais ce qui est intéressant, ce que je trouve très rassurant, et c'est ça la leçon, tout le monde parle de tout le négatif, tout le mal qu'on pense de Donald Trump. La situation telle qu'elle se présente, elle est inquiétante dans un certain sens, mais elle est aussi très rassurante dans un autre. Donc il y a une résistance et une opposition de plus en plus farouche, de plus en plus osée de la part non seulement des populations, mais en fait, même au sein de l'administration, au sein des gens qui sont censés seulement obéir, les gens disent non, 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 nous avons le devoir de dire non à des choses auxquelles on ne croit pas.
C'était Léonard Wanchekon de l'Université de Princeton.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Fin de cette édition, mise en onde, Georges Léonard Sagnon, présentation Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui, on reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com. Au revoir.